cadre. Et il y a beaucoup de gens qui, j'ai entendu cela hier, travaillent sur moi, des gens que je ne connais pas. N'hésitez absolument pas à me contacter, à m'approcher. N'hésitez pas et n'attendez pas 4 jours de rencontre dans les couloirs où on ne se connaît pas pour me parler. Voilà.
Bien, mais nous allons commencer. Alors, moi aussi, je vais commencer par un très bref message. Beaucoup le savent déjà, mais pour des raisons personnelles, ma femme est sur le point d'accoucher de jumeaux. Je dois partir aujourd'hui et être auprès d'elle parce que l'angoisse est de plus en plus forte et surtout elle n'est plus, disons, autonome physiquement. Donc il faut que je sois auprès d'elle. Je suis à la fois déçu parce que cela fait 2 ans que nous travaillons vraiment sur ce colloque avec Anne, avec Frédéric, avec Joël, avec Pierre. J'étais absolument excité à l'idée d'écouter toutes ces communications et je voudrais que vous ne preniez pas mal mon absence qui m'affecte beaucoup, d'autant plus que la première fois vraiment que Volodine a été présent lors d'une journée d'études, c'était à Aix et c'était organisé par Anne et j'avais dû aussi être absent au dernier moment pour des raisons plus professionnelles. Donc une sorte de malédiction. Et comme c'est une parturition non chamaniquement assistée, je crois en tout cas, je vais le faire beaucoup plus simplement. Deuxième information, face à cette zone de turbulence conséquente que je traverse en ce moment, Anne et Frédéric ont décidé de m'assister dans cette première...
Chamaniquement.
Lors de ce premier discours, en fait, ce qui se voulait une communication d'ouverture et qui pesait un peu trop sur mes épaules ce dernier mois. Et finalement, je crois que c'est une bonne chose. On va le faire de manière collective et reprendre cette idée de la réception 25 ans après, 25 ans après la publication du premier ouvrage, à 3. Anne va commencer, je prendrai la suite et Frédéric terminera. Et vraiment, je m'arrêterai là, mais je veux vraiment les remercier. Leur générosité est magnifique. Voilà. Donc,
Il faut quand même dire que le prétexte que nous donne Lionel pour disparaître n'est pas du tout volodinien. Parce que, comme vous le savez, dans l'œuvre de Volodine, il n'y a pas de bébé, il y a très peu d'enfants. Et disons que la reproduction de l'espèce, elle est toujours problématique. Ouais, ouais. Hein, voilà. Je n'en dirai pas plus, je lui laisse la responsabilité de ses actes et autres. Bon, effectivement, comme Lionel vient de le dire, nous présentons le colloque à 3, ce qui est peut-être un petit peu inhabituel. Et je remercie mes petits camarades de m'avoir associé à cette ouverture. Mais je crois que si je dis ça, ce n'est pas uniquement anecdotique. C'est aussi, je crois, le signe du rapport que nous entretenons à l'œuvre de Volodine, qui est un rapport, je dirais, de camaraderie, d'amitié. Et le fait qu'on ait travaillé collectivement là-dessus, ça définit, je crois, une ambiance qui est la nôtre. Qui n'est pas celle de tous les colloques universitaires, tant s'en faut, mais qui est vraiment, je crois, une bonne ambiance, et je pense qu'elle se maintiendra jusqu'à la fin de cette semaine. Alors, moi, pour commencer, ils sont bons déjà. Ils sont trompés de colloque. Je ne savais pas que mon introduction allait être aussi brutale.
C'est dur ce que tu as dit, camaraderie, collectif.
Oui, mais pour commencer, moi je voudrais rendre hommage à mon libraire. Parce qu'il y a juste 20 ans, c'était en 1990, mon libraire, qui est le libraire de l'odeur du temps à Marseille, m'a dit, il y a un livre qui vient de paraître qui est pour toi. C'était Lisbonne derrière marge. Ben, il avait raison, c'était vraiment un livre pour moi. Et à l'époque, je ne connaissais pas les 4 livres parus dans la collection Présence du futur, puisque ces 4 livres, à l'époque, n'étaient pas mentionnés dans l'édition de Lisbonne Dernière Marge. Donc c'est un livre que j'ai reçu, vraiment, j'ai envie de dire, comme un ovni, même si les précédents, dans une collection de science-fiction, venaient d'autres planètes. J'avais vraiment le sentiment que c'était un livre qui venait d'une autre planète, et qui en même temps, d'une certaine façon, pour moi, sonnait extrêmement juste. Je dirais que c'était des textes qui... était placé, comme on dit qu'une voix est placée, avec une extrême justesse, et en même temps une justesse étrange, même si les deux mots ne sont peut-être pas complètement compatibles. Et bon, mais ça m'a fait un effet de sidération, puis dans la foulée, j'ai lu tout ce qui paraissait. Mais enfin, rien pour moi n'est venu d'une certaine façon masquer ce premier choc de contact avec une première œuvre. Je ne connaissais rien de l'auteur, bien sûr, et je ne savais pas, évidemment, les textes précédents. Et puis, bon, je ne vais pas vous raconter dans le détail tout ce qui a été mis en place à partir de là. Simplement, la première rencontre effective avec l'auteur, ça a été toujours dans la même librairie de l'Odeur du Temps, à laquelle je rends hommage une fois de plus. Ça, alors, je ne sais plus si c'était pour présenter Alto Solo ou Le Nom des Singes, l'un ou l'autre. Ça, je n'ai pas réussi à retrouver. Mais, par contre, j'ai regardé un peu le journal que je tenais à l'époque. Et j'avais complètement oublié. J'avais noté un résumé de la rencontre, de ce qui s'était dit. Et puis, simplement, ça je l'ai raconté hier à Joël, à la fin de ma page d'écriture, il y avait « probablement, ça ne donnera rien ». Et je me suis mise moi-même à rire en lisant ça, parce que j'avais l'impression... Enfin, qu'est-ce que ça voulait dire « ça ne donnera rien » C'était évidemment pas un pronostic sur l'œuvre, c'était un pronostic sur le travail que moi, peut-être, je serais capable de faire dessus. Bon, ben voilà, c'était vraiment l'erreur de base. Bon, à partir de ce moment-là... Évidemment, qu'est-ce que c'est que lire un auteur contemporain, lire un auteur de l'extrême contemporain, même quand on a un peu l'habitude de lire des auteurs de l'actualité. Qu'est-ce que c'est que travailler sur un auteur vivant? Eh bien, c'est avant tout prendre le risque de se tromper, surtout quand, en tant que lecteur, on est professeur. C'est-à-dire, en tant que professeur, on a envie de faire partager ses découvertes et de dire à ses élèves ou à ses étudiants, ça y est, j'ai trouvé un bouquin extraordinaire, il faut qu'on en parle. Et bon, mais prendre le risque de se tromper, pourquoi pas? Là, en l'occurrence, je crois que je ne m'étais pas trompée. Si, je me suis trompée quand j'ai dit ça ne donnera rien, bien sûr. Mais il me semble aussi, plus sérieusement, que là, l'université a vraiment un rôle à remplir que peut-être elle n'avait pas il y a 20 ans ou 30 ans. Je veux dire par là qu'il me semble qu'autrefois, la critique journalistique ou la critique en revue jouait beaucoup plus qu'aujourd'hui son rôle d'indiquer ce qui compte ou ce qui ne compte pas dans l'énorme production littéraire de tous les jours. Hein. Et il me semble que nous manquons terriblement de boussole, et que cette boussole, c'est justement peut-être à nous, universitaires, de la remplir, peut-être parce que de par notre travail, y compris sur les œuvres du passé, ça nous donne peut-être une distance critique que nous pouvons tout à fait exercer sur les ouvrages d'aujourd'hui. Hein. Et ça, je crois que c'est important. J'ajouterais que quand je parle de distance critique, ça veut dire aussi que nous avons un rôle non pas simplement d'analyser en effet les œuvres qui paraissent, mais justement de les étayer ou de les soutenir, c'est-à-dire de les aider à exister. Parce que il est certain que l'article dans Le Monde ou dans Libération, bon ici je voudrais saluer en son absence Jean-Didier Wagner, dont vous savez tous l'extrême importance des articles qu'il a écrits dans Libération et qui ont vraiment donné, je crois, une visibilité forte à l'œuvre de Volodine. Et nous regrettons tous qu'il n'ait pas pu, pour des raisons de santé sérieuses, être parmi nous. Et j'espère que nous aurons un texte de lui tôt ou tard. Donc, dans la mesure où un travail journalistique ou revuiste aide l'œuvre à exister, je crois que là aussi, nous, en tant qu'universitaires, nous n'avons pas uniquement à courir après des œuvres déjà faites, mais justement à étayer une œuvre en train de se faire, enfin une œuvre déjà largement existante, mais qui se poursuit. Et je crois que là, on a une tâche à faire que, je ne dis pas que nous sommes seuls à pouvoir faire, mais que nous avons en tout cas à faire exister. Alors, la difficulté, évidemment, de parler de cette œuvre, c'est que, bon, j'ai parlé d'OVNI, j'ai parlé d'œuvres qui viennent d'une autre planète. En fait, il est évident, c'est une œuvre, mais ça, je pense qu'on en parlera abondamment au cours de cette semaine, c'est une œuvre qui est piégée d'une certaine façon, qui tend des pièges au lecteur. Là, j'ai une citation de Des Anges Mineurs, c'est un écrivain dans Des Anges Mineurs qui dit ceci. « Méfiant quant à la nature du réel qu'on l'obligeait à parcourir, il défendait l'intégrité de ces espaces oniriques en y plaçant des pièges destinés aux indésirables, des glues métaphysiques, des nasses. » Alors, ces nasses ou ces glues métaphysiques, c'est quelque chose dans quoi on a tous été, enfin, à quoi on a tous été confrontés, je crois, parce que c'est effectivement une œuvre qui n'est pas évidente, tant s'en faut, et qui tend des pièges, mais des pièges, je crois, qui demandent à être déjoué, à être dépiégé, si vous me permettez ce néologisme. Alors, justement, avec quel outil aborder l'œuvre? Alors, les outils, je dirais que nous, universitaires, on a bien sûr tous les outils formels, narratologiques et patin-couffins dont nous disposons tous pour faire scientifique. Hein. Mais en même temps, je crois que chacun de nous a peut-être une boîte à outils personnels qui lui vient de toutes ces lectures du passé, de l'intérieur, ou des lectures du futur, pourquoi pas. Moi, je crois beaucoup au plagiat par anticipation, donc pourquoi pas. Mais je crois que la grille de lecture, en ce qui me concerne, elle me vient essentiellement de Walter Benjamin. Et je suis très contente, entre autres, de penser qu'Antonin Wieser va parler d'Adorno, parce que je crois qu'effectivement, les penseurs de l'école de Francfort ont des choses à nous dire tout à fait par rapport à aujourd'hui. Alors, Walter Benjamin a écrit un article sur Volodine, vous serez peut-être surpris de l'apprendre. En fait, il pensait qu'il parlait de Krasauer, mais lisez l'article qu'il a consacré à Krasauer et vous verrez que ça marche tout à fait sur Volodine. Je l'ai cité dans Portrait de l'auteur en chiffonnier, qui est dans le petit bouquin de Minard, dont vous avez un exemplaire au secrétariat que vous pouvez feuilleter. Vous ne pouvez pas l'acheter malheureusement parce qu'on n'en a plus, mais bon, si vous pouvez le commander chez Minard, si vous arrivez à le commander, ce qui est encore une autre histoire. Mais il y a également quelques petits tirés à part qui peuvent vous donner des indications là-dessus. Donc je mets cet auteur au programme. Alors j'ai mis d'abord Lisbonne, dernière marge, puis d'autres bouquins. J'ai lu Des anges mineurs, j'ai vu Dondong, etc. Thierry, je ne sais pas à quoi tu as eu droit. C'était Dondong ou c'était Des anges mineurs? Je ne sais plus. C'était Des anges mineurs. Et je dois dire que à part, bon, il y a quelques étudiants qui ont survécu victorieusement, puisque Thierry a même été jusqu'à faire une thèse avec Joël Glaise, mais je dois dire qu'il y en a d'autres qui ont détesté, et j'avais une réponse, que j'aurais pu leur faire une... Il y en a qui m'ont dit, pourquoi vous mettez toujours au programme des œuvres tristes? Ça m'a vachement étonnée, parce que pour moi, c'était pas du tout une œuvre triste, mais enfin, bon, chacun ses goûts. Et en fait, j'ai trouvé, mais très tardivement, une réponse victorieuse à leur faire, malheureusement c'est un peu post-mortem, c'est dans Rituel du mépris. C'est quand Moltcher parle de l'éducation qu'il a reçue, qui est une éducation extrêmement dure, cruelle, hein, si vous vous souvenez. Et Moltcher dit ceci, et c'est ça que j'aurais dû dire, j'aurais dû dire que j'étais comme les professeurs de Moltcher, je cite Rituel du mépris. Je ne dénonce pas là une cruauté particulière de la part de mes éducateurs. On m'apprenait ainsi à ne pas m'effondrer devant les alternatives impossibles, à nager à travers les dilemmes insolubles, j'apprenais à me sentir en sécurité au milieu de la terreur. Voilà, j'aurais dû leur dire ça, mais bon, j'y ai pas pensé. Alors je vous le donne, comme ça vous pourrez le dire peut-être plus tard à vos futurs étudiants. Alors, maintenant je voudrais proposer un rapide déplacement du curseur. Parmi les questions qu'on s'était posées avec Lionel et Frédéric pour préparer cette espèce de mini-chorale, de mini-trio, pour employer des termes de musique qui se fait aujourd'hui devant vous, on s'était dit, est-ce qu'il y a une évolution de l'œuvre? Alors je me suis posé la question, je me suis dit, bon, je crois que je ne vais pas répondre aujourd'hui, on va peut-être répondre le dernier jour s'il y a Dieu, en tout cas après un travail collectif là-dessus. Donc je laisse tout à fait la question ouverte. En revanche, il y a une chose sur quoi peut-être je peux m'interroger davantage, c'est une évolution éventuelle de ma lecture. Là aussi, en essayant de ne pas tomber dans l'anecdote. Au contact de l'auteur, ça, je laisse un blanc. En revanche, au contact d'autres lecteurs, ça, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord la thèse de Lionel. Alors, la thèse de Lionel, je dois dire, ça a été pour moi un choc à bien des titres. D'abord par sa qualité, bien sûr, et aussi parce que je découvrais tout à coup que je n'étais pas seule au monde à lire Volodine. Alors ça, je ne sais pas vous, mais moi, ça a été le trauma. Hein, bon. Enfin, bref, ça a été comme ça. Et ça a été aussi l'occasion d'autres rencontres, et notamment la rencontre avec Bruno Blankmann. Je crois que c'est là la première fois qu'on s'est vu et qu'on n'a pas cessé de, disons, de correspondre, même si on ne se voit pas très souvent. Également, le travail de Frédéric, qui n'est pas encore soutenu, mais qui ne saurait tarder. Et à partir du travail de Frédéric, il y a eu le très beau colloque qu'il a organisé à Moscou, où nous étions plusieurs à nous être rendus, dont Pierre et Christine, entre autres. Et ce colloque, pour moi, a été très intéressant à bien des titres, mais entre autres parce que je me suis rendu compte que la lecture que j'avais de Volodine, même si je me crois internationaliste, c'est une lecture quand même très française. Parce que je me suis rendu compte que les Russes, eux, enfin du moins certains Russes, leur vision de 1917 ou leur vision du Goulag, pour prendre deux exemples historiquement distincts, eh bien, c'était pas du tout celle que je pouvais avoir ou celle que Français pouvait avoir. Ça a été très intéressant. Alors, il y avait d'ailleurs certains... réagissaient sur le mode du patouche, hein, c'est-à-dire 1917, c'est nous, hein, c'est Moscou-Saint-Pétersbourg, Et le goulag, c'est encore mieux, plus. Même si bon. Hein, voilà. Et d'une certaine façon, je crois que c'est une question qu'on va retrouver dans la table ronde avec Arnaud Bertina et Nicole Caligaris, qui est la question du qu'en est-il de parler de choses qu'on n'a pas vécues personnellement ? Et qu'est-ce que ça veut dire vivre personnellement ? Bon, mais ça, c'est une question qui m'est chère et je crois que, qu'on en reparlera. Donc, bon, je ne vais pas nommer tous les présents parce que même si je n'ai pas rencontré tout le monde concrètement avant aujourd'hui, je crois que j'ai lu à peu près tout le monde et bien sûr, chacun de ces textes apporte des choses. Alors, si je peux parler d'une évolution, mais là, ça va être très vite, c'est qu'au tout début, je dirais que ma lecture, rassure-toi, j'ai presque fini.
Non, mais tu as vraiment tout ton temps, on est vraiment...
Ma lecture au départ, elle a été, je dirais, très centrée sur un mode historique politique. En même temps, dès mon premier article qui était paru dans la revue Substance, et qui s'intitulait, avec des guillemets, « Clarté des secrets », je m'étais mise à moi-même une espèce de mise en garde que j'avais tirée de la biographie comparée de Jorian Burgrave, parce que si vous vous rappelez ce texte, à un moment donné, il y a un des biographes, enfin les biographes de Jorian Burgrave, ils s'entrelisent, de même que nous nous entrelisons, et bien entendu, comme nous, ils disent, ils ne sont pas d'accord entre eux. Hein, de même, aucun de nous n'est d'accord, bien entendu, sur l'individu qui signe Volodine, mais dont nous ne savons pas très bien qui il est en réalité. Et donc, un des biographes écrit à propos d'un autre biographe, je cite, « Celui qui a écrit la fable doit mal le connaître. Il en fait un adepte d'une secte révolutionnaire rouge. Cela me choque. La couleur de sa violence n'avait pas sa place dans le spectre qui nous est familier. » Alors, moi, cette citation, ça avait été pour moi un trait de lumière, et c'est pour ça que je tiens à rappeler que je l'ai mise dans mon premier article, parce que c'était une façon d'emblée d'inscrire le décalage de l'œuvre par rapport à un repli possible, un repli non pas de l'auteur, mais du lecteur. Hein. Le lecteur est toujours tenté de reployer l'œuvre sur des référents historiques, politiques. Quand je dis le lecteur, je veux dire naturellement moi. Et quand je dis moi, bon, vous connaissez la suite. Donc, il me semble que dans cette œuvre, il reste évident pour moi que l'histoire est une sorte d'ostinato, hein, de basse continue. C'est-à-dire que c'est... mais en même temps, c'est tout le temps problématique. C'est une pulsation, c'est une note qui est tenue, un accompagnement, si vous voulez, sauf que dans le terme d'accompagnement, il y a toujours l'idée de quelque chose de secondaire. Or, c'est sûrement pas secondaire. Je crois que l'idée d'ostinato, évidemment, on pense à Louis-René des Forêts, je pense que c'est exactement pour moi la place de l'histoire dans cette œuvre. Et simplement, cette place de l'histoire, d'emblée, pour moi, elle était, comme c'est évident quand on a commencé à lire Volodine, elle était problématique. Je voudrais me citer pour une fois l'article qui s'intitule, ça le titre même est de Volodine, le vide pour tous en 49 leçons, et le sous-titre c'était le réalisme dans l'œuvre d'Antoine Volodine. Je veux dire, parler de réalisme c'était un peu provocateur, mais après ça, je crois que j'ai réussi à victorieusement démontrer que c'était une œuvre entièrement réaliste. D'ailleurs, je peux le prouver parce que j'ai une citation cette fois de, ça doit être dans Des anges mineurs, mais peu importe, je cite. Je ne fais preuve ici d'aucun parti pris poétique de décalage ou de travestissement magicien ou métaphorique du monde. Je parle la langue d'aujourd'hui et nulle autre. Tout ce que je raconte est vrai à 100%. Tout a eu lieu déjà exactement comme je le décris. Oui, je crois que c'est dans Des anges mineurs. Je n'ai pas noté, mais ça doit être ça. Voilà. Alors, forte de cette idée que tout ce qu'il raconte est vrai à 100%, voilà ce que j'écrivais dans Le vide pour tous en 49 leçons, je cite. En fait, de même que le surréalisme, une des références majeures de Volodine, naît entre autres en réaction contre la faillite de l'humanisme rationaliste que représente la guerre de 1914, on pourrait dire que la société post-exotique volodinienne naît d'une défaillance analogue que nous avons du mal à nommer ou à nous représenter, car nous y sommes. Et juste après, je citais Manuel Adreger. Ça, c'est dans le deuxième Mickey. Et si, là-bas, tout près, de nouvelles bizarreries étaient en train de modifier notre monde, le monde normal. Fin de citation de Manuel Adreger, fin de citation de moi. Voilà. Donc, tout ça, si vous voulez, c'était pour à la fois indiquer massivement la présence de l'histoire et indiquer aussi le réalisme direct et en même temps les possibilités de décalage. Alors, j'en arrive à ma conclusion, je vous rassure. Je maintiens cet ostinato, mais en même temps, j'en suis venue progressivement à regarder de plus près des questions que j'avais laissées de côté. comme notamment ce que j'ai exploré à partir de Moscou dans l'article qui s'appelle « La marge animale » ou dans la recension que j'avais faite sur nos animaux préférés, ou la question de l'hétéronymie que j'avais travaillée avec Bruno Blankmann et Franck Wagner. Maintenant, du côté du théâtre, ça j'en parlerai plus loin, du côté de la musique, ça c'est encore en pointillé. Donc c'est une histoire à suivre, c'est une lecture qui reste ouverte, et c'est tout pour mon introduction.
Merci Anne. Puisque nous en sommes à parler d'élaboration collective, je dois confesser un oubli. Je voulais vous dire que il y a en vente à côté, vers ici, je ne sais plus dans quelle salle exactement, mais
au secrétariat,
l'ensemble de ces élaborations collectives qu'a produit l'équipe de Pierre Ouellette, notamment les volumes Défense et illustration du post-exotisme, La vue et la voix dans les arts, la littérature et la vie commune, dans lequel on trouve un texte inédit d'Antoine Volodine, de même que, alors là, en revanche, je ne connaissais pas cette publication, les écrits, peut-être plus récentes, oui, c'est ça, hein. Et Puissance du verbe, écriture et chamanisme. Hein, donc on peut remercier Pierre d'avoir amené ces ouvrages. Donc nous sommes partis de cette idée, Anne et Frédéric et moi, de parler de ce qu'était l'élaboration collective d'une œuvre. C'était le point de départ de mon résumé de communication que je ne ferai pas, mais si ça ne vous embête pas, je vais juste le rappeler, parce que ce sera la base sur laquelle je travaillerai. Donc j'avais proposé ceci. L'image d'un auteur ou celle d'une œuvre est indiscutablement le fruit d'une élaboration collective. Elle relève tout à la fois de logiques internes, les textes d'accompagnement, et de logiques externes, critiques journalistiques, critiques savantes, apparition du corps de l'auteur sur des photographies dans l'espace public, dont a parlé Anne tout à l'heure. Évidemment, ces deux logiques ne doivent pas être confondues, elles ne sont pas situées sur le même plan, mais elles sont intriquées, elles communiquent directement ou indirectement. Cette intrication, cette communication sont d'autant plus productives que l'œuvre en question est métacritique ou qu'elle produit elle-même son commentaire. C'est particulièrement le cas de celle d'Antoine Volodine. On aimerait donc, et là je reprends je pense ce qui était notre point de départ, lors de cette présentation, observer le champ de réception du post-exotisme sur une période longue, 25 ans, en relation avec les postures d'auteurs manifestées dans les textes eux-mêmes. Cette perspective nous donnera ainsi l'occasion d'un bilan critique. Anne vient de le faire d'un point de vue à la fois personnel et dans son rapport à la singularité, à la collectivité post-exotique, de lecteur du post-exotisme. Moi aussi, j'ai ressenti cette nécessité d'un bilan pour une raison simple, c'est que pendant 8 ans, j'ai vraiment consacré la plupart de mon travail critique et théorique à cette œuvre. Mais depuis, je me suis arrêté, pour tout dire. Moi, il y a une rupture, notamment parce que j'ai endossé une position autre, qui est celle d'éditeur de Bassmann, et que, d'une certaine manière, ces positions ne sont pas forcément... Enfin, elles peuvent être antagonistes. Donc, en revenant ici, j'avais envie de voir, pour moi-même, ce qu'était un nouveau départ dans l'œuvre d'Antoine Volodine. Mais c'est aussi le lieu de prise de parole qui, je pense, oriente vers la tendance au bilan. Je l'ai dit hier, lors de la présentation du colloque aux participants, les colloques de Cerisy sur les auteurs contemporains sont un de ces moments forts qui marquent la consécration d'une œuvre en France. Ce processus de consécration et protéiforme se déploie sur de multiples échelles. Disons que Cerisy participe à la consécration dans le champ de production restreinte, selon la terminologie de Pierre Bourdieu. Et dans ce champ de production restreinte, il est un haut lieu de valeur ajoutée au capital symbolique. Voilà, j'arrête avec les gros mots. Et maintenant, on pourra dire, ça y est, Volodine est un auteur qui, dans une semaine, aura eu son Cerisy.
C'est pas de la consécration, hein, c'est la mise en débat.
D'accord. Bon, s'il ne faut pas non plus exagérer l'événement, il constitue une ligne de plus dans cette reconnaissance qui se construit année après année et dont on peut dire qu'elle est le fruit d'une action extérieure à l'œuvre. Je pense bien sûr au numéro de revue sans vente. Anne en a cité quelques-uns. Aux travaux de recherche, Anne en a cité aussi, à la bourse Gattegno, par exemple, qu'a obtenu Antoine Volodine il y a 2 ans, etc. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais mon idée de départ, c'est un peu la même que celle d'Anne, et vous verrez que nos prises de parole se répandent véritablement, c'est qu'on ne rencontre presque jamais une œuvre sur une terre vierge. je dirais qu'on ne rencontre jamais une œuvre sur une terre vierge. Soit on en a entendu parler par un ami, par la presse, par un libraire, par un professeur, et en ce sens-là, notre rôle est important. Soit on la découvre grâce aux signes qui sont à notre disposition. Et les premiers signes qui sont à notre disposition, c'est souvent le nom d'auteur, un titre, un éditeur aussi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en matière de nom d'auteur, de titre, d'éditeur, cette œuvre qui nous passionne élabore son horizon d'atteinte de manière consciente, structurée, riche, protéiforme, homogène. D'autant qu'à ces premiers indices qui font les deux premiers points du triangle structurel de la littérature moderne, auteur, éditeur, elle ajoute la représentation de son public, qui constitue le troisième point de ce triangle, auteur, éditeur, public. Voilà, parce qu'il me semble que si on essaie de réfléchir à ce qui fait structurellement la littérature moderne, c'est peut-être la constitution de ce triangle, auteur, éditeur, public. Si on va au-delà de la compréhension de la modernité en termes esthétiques ou idéologiques, si on pense plutôt en termes structurels et en termes d'espace public, je pense que c'est ainsi qu'on doit comprendre la naissance de la littérature moderne, avec cette naissance simultanée de nouvelles figures, de ces nouvelles figures que sont l'auteur comme porteur d'un génie propre et qui doit être protégé par un droit, l'éditeur qui n'existe pas jusqu'à la fin du XVIIIe siècle et qui est cet accoucheur de textes, et surtout le public anonyme, non adressé et massifié. Aujourd'hui, si je tente de poser pourquoi cette œuvre me passionne autant, je dirais ceci. Aucune autre, à ma connaissance, ne constitue à ce point une représentation et une expérimentation des conditions mêmes de la littérature et de ce triangle dont je viens de parler. Enfin, vous voyez pourquoi, hein, les noms d'auteurs, les changements d'éditeurs, les éditeurs dans le livre, les publics dans le livre, etc. Je vais y revenir dans ma deuxième partie. Mais d'abord, je veux parler de ce que je m'étais proposé de faire et que je n'ai pas fait. Ce que je voulais faire, c'était observer, pratiquement archéologiquement, les conditions de réception changeantes de l'œuvre. Et comme je sais qu'il y a quelques étudiants de master ici qui vont commencer un travail, dont une avec moi, pourquoi ne pas donner quelques pistes dont on a déjà parlé par ailleurs dans les bureaux de Paris 8. Considérant qu'on n'entre jamais dans une œuvre sans qu'un horizon de départ existe, il faudrait étudier ces étapes. Tu en as repéré quelques-unes. Quels furent les premiers discours critiques prononcés sur les ouvrages publiés par De Noël, par exemple? Ils sont rares, il faudrait les reprendre, il faudrait les analyser. Il est évident que cette collection qui marquait une idée de la littérature, qui marquait de manière forte une idée de la littérature, a coloré l'horizon de réception de cette œuvre. Il faudrait le vérifier. Puis nous avons été nombreux, ça a été la même chose pour moi, à entrer dans l'œuvre par Lisbonne dernièrement. Et nous avons été nombreux à entrer dans l'œuvre par Lisbonne dernière marge parce que nous étions aussi des lecteurs des éditions de Minuit et que nos libraires savaient que nous étions des lecteurs des éditions de Minuit et que nous étions confiants dans l'achat d'un livre des éditions de Minuit. Il faudrait tout de même l'avouer, le dire et le penser. Donc, si nous étions des lecteurs des éditions de Minuit, c'est que nous étions souvent des lecteurs du nouveau roman. Donc, je pense qu'il faudrait penser cette première réception de l'œuvre par une grille de lecture analytique qui était héritée de notre lecture du nouveau roman et que nous avons appliquée sans le vouloir. Moi, de manière très consciente, si je reprends mes premiers textes sur Antoine, je dirais que ces textes sont... Et je dirais, c'est même pas les textes publiés, c'est les questions que j'envoyais à Antoine au tout début, sont... terriblement marqués par cette lecture du nouveau roman. Ils sont vraiment prennent des pistes qui emmaillotent l'œuvre dans un espace de réflexion qui n'est pas le sien. Mais enfin, je pense qu'il faudrait le penser parce que nous lisions Lisbonne dernière marge avec la grille du nouveau roman tout en héritant inconsciemment de ce qui s'était construit durant la période de Noël. Puis deux moments forts viennent inévitablement à notre esprit. Hein. La publication du post-exotisme en dit leçon 111, dont je voudrais dire que c'est un moment fort qui est un moment faible sur le départ, dans la mesure où c'est un moment fort a posteriori. Au moment de la publication, je ne vais pas dire de bêtises, mais la publication est plutôt ratée par l'éditeur Et de ce fait, elle passe pratiquement inaperçue au moment même. Hein. Donc c'est un moment fort a posteriori, ce qui n'est pas exactement la même chose qu'un moment fort dans le temps présent, comme est l'autre moment fort dans le temps présent. Et cet autre moment fort, c'est vraiment des anges mineurs. Des anges mineurs en 99 avec le prix Inter. Je pense qu'il y a là une nouvelle entrée dans l'univers de Volodyn, une nouvelle entrée de lecteur, et qui n'y entre pas du tout avec le même horizon d'attente que ceux qui y sont entrés par Lisbonne Dernière Marche. Donc si nous regardions ce que nous faisons, ensemble, sans vouloir nous discriminer en fonction de notre date d'entrée dans l'œuvre, il est évident que ceux qui sont entrés au moment de Des Anges Mineurs, ceux qui sont entrés au moment de Lisbonne Dernière Marche, ceux qui entrent maintenant dans un processus de lecture analytique de l'œuvre, n'y arrivent pas en ayant la même image de l'œuvre. Parce qu'il y a des images d'œuvre comme il y a des images d'auteur. Évidemment, il faudrait dire aussi que Des Anges Mineurs marque aussi le passage chez un autre éditeur qui lui-même a une image, Fiction et compagnie, a une image qui, je reprends ce terme, colore la publication de Des Anges Mineurs, de même que Des Anges Mineurs et l'œuvre de Volodyn va influencer notre vision de la collection Fiction et compagnie en retour. Ce processus est évidemment réversible. Donc il ne faudrait jamais oublier par ailleurs ce qui se dit dans l'œuvre et ce qui se dit hors de l'œuvre, dans le discours critique et public, pour voir comment ces deux strates de discours se répondent. Il faudrait aussi voir, et là je suis entièrement d'accord avec toi Anne, s'il n'y a pas des horizons d'attente géographiques, localisés, disons, je pourrais presque dire national, hein. Et c'est effectivement l'expérience que nous avons eue lors du colloque de Moscou, où très clairement, la réception française, la réception québécoise, et pourtant ces deux réceptions sont en perpétuel dialogue, mais la réception française, la réception québécoise, incarnée par les personnes qui étaient présentes, hein, et la réception moscovite, étaient tout à fait différentes. Et je crois que si ce colloque nous a marqués, profondément marqués, c'est pour cette raison. Voilà. C'est que tout d'un coup, moi, en tant que lecteur de cette œuvre depuis déjà quelques années, j'ai eu un feedback sur la manière dont j'étais construit nationalement dans ma lecture, qui était très fort. Donc, évidemment, ce que produit Pierre et ce qu'a produit Pierre à Montréal et au Québec pour cette œuvre est aussi à penser en dialogue. Et ce dialogue n'est pas forcément un dialogue, non pas amical, mais c'est pas un dialogue monologique, enfin je ne sais pas si je peux dire, c'est un dialogue unifié, en tout cas. Donc je crois que ce travail que je n'ai pas fait, en tout cas moi je trouve qu'il serait passionnant à faire, j'engage vraiment, j'engage les étudiants à le faire, il me semble que c'est le temps, il est temps de le faire. Mais en préparant cette petite bafouille, m'est venue une autre idée sur laquelle je voudrais m'arrêter, et qui reprend ce qu'a dit Anne, c'est pour ça que les échos sont très forts, mais il se trouve, c'est un hasard historique, Antoine Volodyn n'y peut rien, qu'il fait partie de cette première génération d'écrivains à pouvoir bénéficier de deux niveaux et de deux temporalités de reconnaissance autrefois distinguées. D'une part, l'espace de la canonisation et de la patrimonialisation que sont la formation et la recherche universitaire, qui constituent des classiques et des canons, souvent dans l'espoir caché de produire un esprit des nations. Il faudrait dire que l'enseignement de la littérature à l'université, historiquement, est un enseignement qui cherche à produire un imaginaire national. Hein. Donc ça, c'est un premier espace et une première temporalité. Et d'autres, de l'autre côté, l'espace de l'actualité et de la contemporanéité qu'on trouve dans la presse. Oui, Antoine, tu n'y peux rien, mais ton œuvre fait partie de cette première vague étudiée à l'université et sur laquelle portent des travaux de recherche. C'est un fait historique, mais que le contemporain, qu'il soit littéraire ou artistique, du reste, s'étudie à l'université est une de ces ruptures douces qui mettent en crise des fondements très solides. C'est ce que la guerre des canons aux États-Unis avait, par exemple, révélé. Très probablement, Antoine Volodyn nous dirait qu'il s'en fiche éperdument. je pense effectivement que l'individu qui se fait appeler sans ainsi se fiche éperdument de savoir si on étudie les auteurs à l'université. Enfin, je ne sais pas, je ne veux pas parler pour lui. Mais son œuvre, que nous dit-elle ? Elle nous communique une forme de méfiance dont tu as parlé, qu'il a à notre égard, non pas à nous, hein, mais à notre égard en tant que profession, méfiance que nous avons tous lue, par exemple, dans cette citation que vous connaissez tous par cœur, nous savons tous qu'il est hasardeux d'analyser la production post-exotique quand on emploie les termes que la critique littéraire officielle a conçus pour autopsier les cadavres textuels dont elle peuple ses morgues. Le passage au crible de la critique traditionnelle a cet effet, il déçoit, mais surtout il rend hideux et il tue. Je cite, hein, on est d'accord. Hein. De plus, le recours à des outils qui appartiennent au bout du compte à une autre science emmaillote nos textes dans une logique qui ne peut les abstraire du mouvement artistique contemporain et au contraire les y ramène de façon abusive, de façon déloyale, parfaitement absurde. Le post-exotisme est une littérature partie de l'ailleurs et allant vers l'ailleurs, une littérature étrangère. Je dois dire que s'il avait écrit ce texte après notre rencontre, j'aurais pensé qu'il pensait à moi. Mais bon, je ne veux pas nous donner plus de poids et plus de valeur que nous n'en avons. Mais soyons conscients que non seulement nous participons à une accélération de la reconnaissance de la valeur, mais surtout que nous canonisons. Et oui, canoniser, c'est toujours trahir. C'est toujours ramener une œuvre singulière à une destinée collective, qu'elle soit nationale ou autre. Connaissez-vous une œuvre qui mette plus en scène cette réalité ? Moi, non. Je n'en connais pas. Certes, la littérature d'Antoine Vouloudine souhaite être autre, mais aucune autre, à ma connaissance, ne pense à ce point les conditions de la littérature contemporaine. À un moment où, précisément, la littérature contemporaine ne pense pas tellement ses conditions. Si l'on pense par exemple à Flaubert, qui pense l'alphabétisation dans Madame Bovary, si on pense à Baudelaire, qui dans sa lettre dédicace à Arsène Houssaye, pense la littérature au regard des productions mécaniques et sérielles. Comme le dit Vincent Descombes, le philosophe Vincent Descombes, sur un tout autre sujet, je tiens à le préciser, la couleur, je cite, hein, la couleur de contemporanéité tient d'abord aux passions de l'historien du présent. Passion qu'il partage avec les acteurs. Cela veut dire qu'il y a une modalité affective propre aux contemporains. Je continue à le citer. Les passions éprouvées par les acteurs sont des passions des contemporains, car ces passions naissent de ce que l'affaire n'est pas encore décidée, que les événements ne sont pas encore un fait accompli. Effectivement, rien ne prouve que nous ne profitions pas d'un savoir, du masque de la classicisation, pour précisément dissimuler ce qui nous anime et qui est passionnel. A l'inverse, si nous parvenions à gommer entièrement cette dimension passionnelle, c'est comme morte et achevée, ces fameuses cadavres textuels qui peuplent les morgues académiques, hein, prêtes au grand dépeçage de la consécration académique que nous regarderions cette œuvre. Nous sommes, nous, chercheurs, lecteurs spécialisés, présents dans cette œuvre. Et pas seulement parce que nous y sommes représentés, d'ailleurs, plutôt de manière négative, mais ce n'est pas un problème, hein, Antoine. Pas de souci. Bon, on t'aime quand même. Hein. Nous y sommes parce que l'œuvre engage un combat avec nous, un jeu, là aussi je repense ce que disait Anne, un jeu avec nous sur ce qui pourrait être reçu comme de la caricature de notre pratique. Comprendre ce que l'auteur a voulu dire. Nous serions là avec nos titres plus ou moins ronflants à dire ce qui n'est pas dit. En vérité, je vais vous le dire. L'œuvre nous piège, nous conduit sur des fausses pistes, se moque de cette condition historique bien particulière où les créateurs sont livrés en contemporanéité au regard des herméneutes qui vont parler à leur place et à la place de l'œuvre. Mais cette condition historique, la contemporanéité créateur-herméneute, j'emploie à dessein le terme d'herméneute, je le répète, est inédite et les conséquences sont d'ampleur. L'œuvre d'Antoine Vouloudine le pense avec une grande acuité, ou en tout cas l'éprouve avec une grande acuité. Et par ailleurs, l'éprouve avec une grande acuité, même à un titre plus existentiel, dans la mesure où les lecteurs spécialisés que nous sommes sont depuis longtemps des proches de l'homme Antoine Volodine, et qu'Antoine Volodine vient de dire, avant cette séance, aux étudiants, venez me parler, je suis là aussi pour cette raison. Donc je me souviens avoir écrit dans un texte une formule un peu platement post-agambénienne, du style « Volodine est contemporain parce qu'il est inactuel, blablabla, blablabla, blablabla. » Reprenant cette œuvre quelques années plus tard, je m'aperçois que cette œuvre-là est la seule à poser de manière évidente les conditions du littéraire à l'époque contemporaine. Mais peut-être cette évidence l'est tellement qu'elle nous est habituellement obscure, et en ce sens on retrouverait ce même Agamben qui dit « contemporain est celui qui reçoit en plein visage le faisceau de ténèbres qui provient de son temps ». Dernier exemple qui va dans ce sens. On a peut-être étudié cette image d'auteur que je mettrai au pluriel. Je crois que ce sera le grand mot de la rentrée littéraire. Un auteur au pluriel. On a peut-être étudié cette image d'auteur des écrivains jusqu'ici de manière un peu unidimensionnelle. Et je parle de moi en premier. Par exemple, j'avais dit l'écrivain comme terroriste et comme dissident. Donc je me réserve à moi-même les feux de l'autocritique. Antoine Volodine n'a pas choisi la réclusion, ni choisi le silence. Et sa présence ici le prouve. Mais il dit y aspirer. Son pseudonyme le prouve. Presque de manière inaugurale. Il espérait que Lutz Bassmann lui permettrait d'être beaucoup plus en retrait, et puis ce n'est pas exactement le cas. Comme tous les écrivains contemporains, et donc là vous voyez que je fais ce qui est dit dans le post-exotisme en dit le sens dans son sens, c'est-à-dire que je place Antoine Volodine dans le contemporain, je l'emmaillote, je l'extrais, et je le mets dans une logique qui n'est pas la sienne. Tant pis, j'y vais. Comme tous les écrivains contemporains, Antoine Volodine est pris dans un déluge d'invitations, de rencontres en signature, de lectures en festival, de colloques en réception plus ou moins mondaine, je mets mondaine entre guillemets. Il est harcelé par la demande d'images, de captations photographiques et vidéos. Ses éditeurs lui infligent des demandes allant dans ce sens, parviennent à le convaincre et réalisent une vidéo, pardon, Antoine. Vous pourrez la voir sur le site des éditions Verdier. Mais son corps est bien là, exhibé car le nouvel espace public du littéraire l'exige. Il exige une voix, il exige un corps, il exige un individu. Moi, ça m'a rappelé cette citation que j'aime beaucoup de Nuit blanche en Valkyrie. Ma figure, si on peut appeler ça une figure, les reliquats encore un peu battants de mon corps, si on peut appeler ça battre et ça un corps, les articulations avec quoi j'ai heurté les scories pour en extirper un résidu d'histoire, si on peut appeler ça une histoire, tout cela persistait à bouger avec une efficacité voisine de zéro sous la cendre, quoique faiblement supérieure quand j'y pense. Je ne crois pas que la communication fût établie, et de temps en temps, je faisais comme si mes simulacres de messages étaient bien passés d'une source à l'autre et avaient besoin d'une ponctuation, et j'opérais un retournement dans la suie assez généreux pour toucher ou émouvoir la planche. Et je saute, hein. Ainsi, entre les parties et de source à source, circuler l'information voisine de zéro, elle aussi. Peut-être ce que j'ai dit avant et cette citation ne vous paraissent pas être en écho. Si, d'accord, merci. Parce que finalement, en la relisant, je me posais des questions. J'ai presque fini. Hein. La condition de l'écrivain contemporain est plus que jamais prise dans ce double bind. L'espace public de la littérature devient tous les jours un peu plus un espace de visibilité. Ne croyons pas que ce constat touche simplement les auteurs de best-sellers, c'est bien de l'inverse qu'il s'agit. Les auteurs de best-sellers ont fait de la visibilité la condition même de leur publicisation. Connaissant leurs ressources, ils ne peuvent que s'en réjouir. C'est pour les autres que tout a changé, car ils sont obligés de faire aussi des tournées, mais sans en retirer les bénéfices. Un roman vendu par lecture dans une librairie n'est pas un score déshonorant. J'imagine que si on pose la question à Antoine Volodine, par exemple, vous pensez quoi de la condition de l'écrivain contemporain, vous répondrez d'un revers de main, mais je ne vais pas encore parler à sa place. Mais si je reprends ce que je viens de dire, ça me rappelle aussi quelques citations que j'aimerais vous délivrer, par exemple celle-ci de Bardot, Ornotte Bardot. Il avait recopié plusieurs fois à la main le texte agitatoire original, ce qui représentait une dépense d'énergie énorme, la pile obtenue était impressionnante. Sans exagération, je crois qu'on peut parler ici de 18 ou même de 19 exemplaires identiques à une ou deux virgules près. Ou celle-ci, de Don Dog. Pendant mes loisirs, soit je participais aux activités théâtrales du camp lorsqu'il y avait un théâtre, soit j'écrivais des livres pour le public du camp, des petits ouvrages d'en circuler un nombre d'exemplaires parfois non ridicule, quoique jamais supérieur à 5 ou 6. Je ne sais pas si vous voyez le rapport. D'accord, non, parce qu'au bout d'un moment, je me dis, c'est moi qui délire. Hein. Donc, si nous nous efforcions de comprendre cette figure d'auteur par ce prisme, qui n'est pas le seul, hein, je tiens à le dire, nous pourrions dire alors que cette œuvre est à peu près la seule que nous connaissions, qui pose les questions les plus importantes qui se posent à notre contemporanéité littéraire, la progressive transformation du lectorat, les mutations propres au monde de l'édition, le déséquilibre croissant entre médiation et critique, la paradoxale position de l'auteur, surexposé, lecture, festival, signature, etc., et marginal, l'accélération de la consécration, notamment dans la formation académique. Elle les pose en les représentant, de manière loufoque, hein, mais aussi en les expérimentant sans cesse, presque à chaque livre, et je crois que la rentrée 2010 nous en apportera la preuve la plus flagrante. Alors, avant d'interrompre ce blabla, je m'aperçois tout simplement que j'ai déjà moi-même, je vais faire exactement ce que tu viens de faire, j'ai déjà moi-même fait l'expérience de 3 réceptions de cette œuvre. La première, c'est lorsque, jeune contemporanéiste, je souhaitais comprendre des œuvres du temps présent avec un paradigme méthodologique évolutionniste. Pour être clair, je cherchais des œuvres qui pourraient s'inscrire dans la filiation du modernisme et du nouveau roman. La deuxième, c'est lorsqu'encore jeune contemporaniste, avec une perspective méthodologique du reflet, je cherchais à savoir ce qu'elle nous permettait de comprendre de notre temps, et particulièrement de notre temps historique et politique. La troisième, c'est lorsque...
Tu es un vieux contemporaniste.
J'y arrive. La troisième, c'est lorsque contemporaniste entre deux âges, aujourd'hui, je cherche, disons structurellement, à comprendre les conditions, les raisons et la fabrique du contemporain. Qu'une œuvre puisse répondre à 3 horizons d'attente, aussi divers et surprenants, qu'elle semble toujours la plus pertinente à mes yeux et la plus passionnante, est impressionnant. Je suis déjà curieux de savoir ce qu'elle apportera, Antoine, à ma maturité, puis à ma vieillesse. Merci.
Ça marche. Bien. Alors moi, je voudrais revenir sur une partie de l'argumentaire de notre colloque. Pour commencer, je vous rappelle un élément que nous avions proposé comme problématisation. Cette œuvre de fiction construisant une fiction d'œuvre et comprenant même une fiction théorique, le post-exotisme en dit leçon 11, on hésite parfois sur l'usage critique et théorique que l'on peut faire des notions qu'elle crée pour se définir. Quel statut donner au nom de post-exotisme inventé par l'écrivain? Doit-on prendre au sérieux les genres proprement post-exotiques? Comment rendre compte du jeu des hétéronymes? Le comble serait que de tels débats conduisent à un partage réel entre de prétendus lecteurs amis et de prétendus lecteurs ennemis. Parce qu'il y en a, on a parlé beaucoup des lecteurs amis jusqu'à présent, mais voilà, à l'image du partage que fait la fiction entre ces figures lectorales. Quand je dis il y en a dans l'œuvre. Ce qui est en jeu dans cette problématisation, fondamentalement, c'est la réflexivité. Il est apparu, en effet, dans des contributions critiques, que cette réflexivité peut poser problème. Je propose dans ce qui suit de considérer ce qui suscite cette gêne, en quoi elle consiste, puis de poser la question de savoir jusqu'à quel point elle se justifie. Comme la clé de voûte de cette réflexivité volodinienne est le nom post-exotisme, je vais me focaliser essentiellement sur ce nom. Alors, je vais faire un très rapide balayage historique de l'apparition de, enfin de l'histoire de ce nom de post-exotisme. Je vais vraiment résumer ce que j'avais fait, sinon je vais être trop long. Il faut rappeler d'abord que le nom post-exotisme n'apparaît pas en même temps que commence l'œuvre en 1985, que Volodine ne l'a employé pour la première fois que dans une réponse à un journaliste du Point en 1991. À l'époque, à la question « Dans quel genre aimeriez-vous être classé ?» J'aime le rappeler parce que c'est quand même magnifique. Réponse « Post-exotisme anarcho-fantastique ». Voilà. Bon alors, je vais éviter aussi tout ce que j'avais noté sur les stratégies de l'auteur. C'est pas vraiment ce qui va me préoccuper ici. Mais toujours est-il que dans ce moment de 1991, il est quand même annoncé un peu sous forme de boutade et qu'il n'est guère chargé de sens. C'est seulement à partir de 1998 et la parution du post-exotisme, on dit leçon 11, que l'auteur nous annonce qu'il va quand même falloir le prendre au sérieux, ce terme de post-exotisme. Et si je reprends les définitions qu'il a données dans une conférence en 2006, c'était à la Bibliothèque nationale de France, je cite qu'est-ce donc que le post-exotisme? On va s'apercevoir que avec cette définition, on est déjà dans quelque chose qui devient de plus en plus consistant. Déjà dans le post-exotisme en 10 leçons 11, on se rendait compte que même 10 leçons n'y suffisaient pas. Il fallait l'hyperbattre de la leçon 11 pour essayer d'y arriver. Mais donc en 2006, à la question « qu'est-ce donc que le post-exotisme ?», Volodine propose 7 petites définitions que je vais rappeler rapidement. Une littérature de l'ailleurs venue d'ailleurs, allant vers l'ailleurs. Deuxième, une littérature internationaliste, cosmopolite, dont la mémoire plonge ses racines dans les tragédies du XXe siècle, les guerres, les révolutions, les génocides et les défaites du XXe siècle. Troisième, une littérature étrangère écrite en français. Quatrième, une littérature qui mêle indissolublement l'onirique et le politique. Cinquième, une littérature des poubelles en rupture avec la littérature officielle. Sixième, une littérature carcérale de la rumination, de la déviance mentale et de l'échec. Et dernière, un édifice romanesque qui a surtout à voir avec le chamanisme, avec une variante bolchevique du chamanisme. Première observation qui s'impose, c'est donc le fait que le post-exotisme a tout d'un mana. Terme qu'employait Claude Lévi-Strauss, puis qui a été repris par Roland Barthes, et qui a le sens de signifiant flottant, au contenu indéterminé. Voilà ce qu'il était au départ, et c'est seulement dans un deuxième temps donc, que le mot s'est doté de multiples sens pour devenir dense et complexe. Cela éclaire la difficulté à saisir ce mot comme une notion. Tout se passe comme s'il devait toujours conserver quelque chose de sa valeur initiale de signifiant flottant, et comporter par là un reste qui se dérobe à notre compréhension. C'est là un point tout à fait essentiel, comme nous verrons dans la suite de ce propos. Deuxième observation qui s'impose, cependant, c'est que le nom post-exotisme a tout d'un mot contradictoire. Dès le moment de son apparition, le nom post-exotisme a été employé par Volodine comme une arme de guerre destinée à préserver un espace littéraire dans sa singularité et son autonomie. Dans ce sens, le post-exotisme en 10 leçons 11 peut être reçu en 1998 comme un manifeste procédant d'un maximalisme à la façon des avant-gardes. Mais il faut voir que dans le même temps, cette attitude moderniste est mise en tension. De ce point de vue, les atermoiements de Volodine avant de prendre au sérieux sa propre création verbale sont un signe. Comme le montrent elles-mêmes les définitions de post-exotisme que je viens de donner, la question qui s'est posée est en fait de savoir dans quelle mesure une telle attitude moderniste est encore possible. Dans un sens, il est vrai, on a affaire à une profession de foi artistique qui entre en résonance avec la modernité. On retrouve ainsi une volonté de rupture avec la littérature officielle, la recherche d'une autonomie absolue à travers l'image utopique de l'ailleurs, puis surtout la revendication d'une littérature politique, spécialement les références à l'internationalisme et au bolchevisme, lient le post-exotisme à l'histoire du communisme au XXe siècle et le situe dans la lignée du surréalisme qui entendait lui aussi mêler indissolublement l'onirique et le politique. Cependant, donc voilà pour la première partie de la contradiction, j'en viens au deuxième terme de la contradiction. Cependant, cet ancrage dans la modernité apparaît problématique car le post-exotisme est aussi manifestement déterminé par la défaite. L'idée d'une littérature dont la mémoire plonge ses racines dans les défaites du XXe siècle éclaire ainsi le préfixe de post-exotisme. L'édifice romanesque que Volodine définit est une littérature d'après l'obscène catastrophe que représente l'échec du projet révolutionnaire au XXe siècle. Ça, c'était une citation. Loin de se trouver à l'avant-garde de la révolution mondiale, le post-exotisme s'élabore sous les décombres de celle-ci. Et c'est pourquoi il est aussi une littérature carcérale de la rumination, de la déviance mentale et de l'échec qui semble, pour reprendre une formule de Jacques Rancière, s'élever sur la ruine des perspectives d'émancipation politique auxquelles l'art moderne a pu se lier. Voilà donc pour le deuxième terme de la contradiction. Alors, voyons donc à présent ce qu'il en est du point de vue de la réception critique du mot. Je suis un peu gêné moi-même parce que la gêne qui l'occasionne a été notamment formulée dans un article de Dominique Viard qui malheureusement n'a pas pu accepter notre invitation et qui va donc pas pouvoir participer à la discussion que je propose. Voyons un peu de quelle gêne il s'agit. On s'aperçoit avant tout que la gêne vient de l'attitude moderniste. Si l'on étudie la revendication d'autonomie, formulée notamment par Volodine dans la définition de post-exotisme comme littérature des poubelles en rupture avec la littérature officielle, il apparaît en effet qu'elle tente à placer le lecteur, et spécialement le critique, devant une alternative face à laquelle il est sommé de prendre parti. Et là, j'ai une citation un peu longue, mais qui me paraît importante. « La culture post-exotique est indépendante et autosuffisante. Elle est mise en œuvre dans le vase clos de l'incarcération, de l'exclusion, de la folie, de l'agonie et du rêve. Elle n'a pas besoin du monde extérieur pour surgir et s'affirmer. Si l'on souhaite réfléchir aux valeurs du post-exotisme, on aura donc le choix entre deux attitudes. La première va chercher à lire, à analyser, à découvrir, à aimer ou à détester le post-exotisme depuis le monde officiel. » C'est nous, là. C'est une méthode d'analyse qui, par principe, considère qu'il existe un centre et une périphérie et qui va très naturellement essayer de montrer l'étrangéité du post-exotisme, sa marginalité. La deuxième va choisir de regarder le post-exotisme de l'intérieur sans se soucier du reste. Elle va privilégier une immersion dans les textes, une complicité face à l'autoréférence. Elle va ignorer l'extérieur. Voilà, ça c'était une citation toujours d'une conférence, hein, c'est pas dans les textes eux-mêmes. Donc, la détermination de Volodine à construire un système poétique fonctionnant en vase clos est telle qu'on pourrait penser que l'œuvre prétend établir à l'interne sa propre glose et par là même régir la critique qui s'intéresse à elle, comme lorsqu'elle fait état des vocables spécifiques permettant de l'analyser mieux que les termes que la critique littéraire officielle a conçus pour autopsier les cadavres textuels dont elle peuple ses morgues. Un risque serait donc, en particulier pour le critique qui éprouve de la sympathie pour cette œuvre, de s'identifier au lecteur détenu, son seul destinataire réel, et de se constituer en avatar du critique post-exotique programmé en son sein. D'apparaître, autrement dit, comme un critique en servitude volontaire, prisonnier d'un système poétique aliénant, un critique parlé par ce système plutôt que parlant de lui. Déjà, les chercheurs qui, prenant acte de ce que le post-exotisme existe, ont adapté ont adopté le nom et ses dérivés, indifféremment pour nommer un monde et ses règles dans l'univers post-exotique, ou pour identifier une esthétique dans le roman post-exotique, le narrateur post-exotique, qui ont aussi tâché de mieux comprendre ce que ce nom signifie en glosant les définitions avancées par l'écrivain. Donc, ces critiques ont pu passer pour des sympathisants qui militent en faveur de l'œuvre, mais qui manquent singulièrement de recul critique, comme tous les partisans. Il y a une mise en garde méthodologique là, au nom de la liberté ou de la neutralité critique, qui mérite assurément de retenir l'attention. Car de façon générale, il est tout à fait vrai qu'une démarche critique rigoureuse vise à interroger toutes les procédures de sens, toutes les procédures de construction du sens dans une œuvre, et que cela implique à un moment ou à un autre, sinon de façon systématique, de passer par d'autres chemins que ceux tracés en celle-ci, que c'est même dans cette bifurcation que se situe la chance d'apporter un nouvel éclairage inattendu sur l'œuvre en question. Mais on peut s'étonner ici de la prévention contre la réflexivité volodinienne sur quoi elle se fonde, quand elle ne conduit pas purement et simplement à dénier l'existence du post-exotisme. Cette prévention conduit du moins à qualifier celui-ci de totalitaire, ce qui n'est pas neutre. C'est dans l'article de Dominique Villard, je cite, « En produisant à la fois un ordre des choses et les discours qui permettent d'en rendre compte, l'œuvre de Volodine fonctionne sur le modèle des confiscations du sens pratiquées par les systèmes de langage totalitaire étudiés par Jean-Pierre Fay. » Alors, au demeurant, si l'on prête attention aux entretiens qu'a accordé Volodine, on s'aperçoit que la qualification de totalitaire appliquée à son projet littéraire n'est pas faite pour l'effrayer. Je vais donner qu'une des deux citations là. Au totalitarisme qui sont au premier plan de la fiction et qu'on devine en fond, il faut ajouter le totalitarisme du post-exotisme lui-même, qui fonctionne en vase clos, de manière sectaire, qui définit de manière stricte ses valeurs, ses codes d'existence et ses modes de pensée et d'expression, et qui fondamentalement reconstruit le monde selon sa propre langue. Le post-exotisme est une poétique, certes, mais c'est aussi une pratique et un système dont il est exclu de sortir, que ce soit par le murmure collectif ou en confiant à un porte-parole le soin de faire connaître quelques-uns de ses ouvrages. Le post-exotisme convoie lui aussi une pensée totalitaire et fait avancer, ou plus simplement remue, sa propre idéologie fermée, cette idéologie égalitariste, subversive, radicale, qui dans ce cadre restreint et isolé est dominante et domine sans partage. Il faut observer que si le nom de post-exotisme est clairement employé par Volodine, il l'est ici par extension métonymique. Les écrivains imaginaires du post-exotisme sont des révolutionnaires vaincus et emprisonnés dont l'idéologie égalitariste, subversive, radicale, ne souffre envers et contre tout aucune opposition et qui crée en monde carcéral une littérature à part destinée à devenir le territoire réservé et exclusif de cette idéologie. Ce qui se désigne comme projet totalitaire semble bien relever de ce qu'en d'autres temps plus animés d'espoir révolutionnaire on aurait appelé utopie. Je soumets ça à la discussion. Mais quoi qu'il en soit, la question de l'idéologie n'est évidemment pas indifférente si l'on songe que la réflexivité est un trait littéraire appartenant en propre à l'horizon de la modernité et tout spécialement à celui du modernisme. On peut se demander, autrement dit, si la gêne occasionnée par le post-exotisme ne vient pas moins de la réflexivité en elle-même que de l'assignation du lecteur à une idéologie révolutionnaire qui semble lui être corrélative. Car l'alternative pour le lecteur dont nous parlions plus haut, Volodine le souligne, est fonction des valeurs du post-exotisme, et c'est dire que les deux modes de réception contradictoires projetés sont censés correspondre à un partage exact entre ceux qui acceptent ces valeurs et ceux qui les refusent. Comme la Chaga, tout texte post-exotique semble s'adresser à un lecteur qui est en connivence idéologique et culturelle étroite avec l'auteur, c'est une citation du post-exotisme en dit leçon 11, et en ouvrant le livre, le lecteur de librairie est ainsi mis en demeure de choisir son camp en acceptant ce rôle inscrit dans le texte ou non, en acceptant de poursuivre sa lecture ou non. Alors, cela serait évidemment un écueil, d'un point de vue déontologique, si la critique du post-exotisme devait se diviser entre lecteurs amis et lecteurs ennemis, pour des raisons idéologiques, même si un tel cas de figure ne serait pas vraiment inédit dans l'histoire de la critique littéraire. Cependant, malgré les affirmations abruptes et radicales qu'on peut lire dans le texte et l'épitexte volodinien, il est heureusement tout à fait possible d'éviter un tel écueil. Il faut pour cela reconsidérer le problème de la réflexivité, qui n'est pas totalitaire en soi. Dominique Viard souligne justement que Volodine n'éclaire guère la notion de post-exotisme par ses définitions, ce qui nous reconduit à la conception du non-post-exotisme comme mana. Or, c'est en réalité cette conception d'un mot mana qui détermine la modalité. C'est cette conception d'un mot mana qui détermine la modalité réflexive propre à l'œuvre de Volodine. Et là, je vais citer un propos de Frank Wagner qui me paraît adopter une position juste quand il soutient que, malgré la présence des indications réflexives, nous sommes ici aux antipodes de quelques autolectures, danger qui semble parfois guetter certains textes dont les excès de pédagogie réduisent la latitude interprétative dont disposent les lecteurs à la portion congrue. Chez Volodine, le métatextuel contribue au contraire à ouvrir le sens, d'une part parce que la teneur même des informations ainsi délivrées n'est jamais monologique, d'autre part, mais les deux sont liés, parce que l'origine énonciative de ces commentaires est très souvent indécidable. Le traitement déceptif de la voix narrative constituant dès l'origine une caractéristique majeure de l'écriture volodinienne. Fin de citation. D'un point de vue théorique, il s'agit en effet de considérer ici, avec Christine Baron, que la réflexivité, loin d'être une manifestation de coïncidence de l'œuvre avec soi-même, est peut-être ce qui exhibe l'ambiguïté liée à tout processus de signification et pose les conditions d'une critique du texte, que la réflexivité, loin d'être une forme close sur soi-même, est l'indicateur d'une énigme. À cet égard, la représentation du lecteur ennemi dans les fictions post-exotiques est exemplaire, car ce n'est ni une appartenance politique, ni un esprit critique soucieux de stratégie formelle et d'élaboration du sens qui font de ce lecteur un ennemi, mais son désir, le plus souvent comme enquêteur ou interrogateur de la police, que les textes ne conservent pas le moindre secret. Sa volonté d'éclaircir, d'arrêter le sens des textes une bonne fois pour toutes, de classer un texte comme on dit qu'on classe une affaire. Et en opposition à ce lecteur rapace mis au défi de trouver des clés de lecture, les écrivains imaginaires ne cessent précisément de revendiquer une ambiguïté irréductible, une énigmaticité à toute épreuve. Des précautions sont prises, en particulier le cryptage des noms et des actions, ainsi qu'une esquive narrative consistant à ne pas raconter ce qu'exigerait la logique fictionnelle, à bavarder de façon fallacieuse, à parler beaucoup, uniquement pour gagner du temps, à parler d'autre chose, précise Yacoub Khadjbakhero. Par le biais d'un dispositif de cryptage et d'une technique de digression, il s'agit pour ces écrivains de respecter le principe post-exotique selon quoi une part d'ombre toujours subsiste au moment des explications ou des aveux, modifiant les aveux au point de les rendre inutilisables par l'ennemi. Or, cette part d'ombre est inaliénable. Certes, les personnages du post-exotisme, qui sont concrètement les véritables destinataires des textes, n'ont pas besoin de balisage pour y voyager sans encombre. Et c'est pourquoi Lutz Bassmann parle d'un hermétisme limpide qui caresse ses symphonies romanesques, mais ils sont bien les seuls à pouvoir y voir clair dans un tel chaos obscur étudié au millimètre. Quant à nous autres lecteurs, qui n'appartenons pas à la fiction, nous sommes avertis via la figure de l'interrogateur ennemi que cette fin de la clarté est sans moyen, que la tentation de rendre exprimable ce qui est inexprimé, d'opérer la conversion de l'obscur au clair, de l'équivoque à l'univoque, et par avance vouée à l'échec, qu'elle peut même nous entraîner sur des pistes marécageuses où nous nous noierons du premier au dernier si nous nous entêtons. Voilà pour l'avertissement. Et pour conclure, je voudrais souligner deux choses. C'est une façon d'amorcer de la communication que je ferai à la fin de ce colloque. La première, c'est que le nom de post-exotisme, en fonction de ce que j'ai dit de cette réflexivité et de la façon dont on peut la recevoir, le nom de post-exotisme renvoie selon moi essentiellement à un régime artistique. Et j'essaierai de voir en quoi il se distingue du régime esthétique inauguré par le romantisme, suivant la formule de régime esthétique de l'art de Rancière. La deuxième chose que je voudrais souligner pour conclure, c'est que cette proposition de concevoir le post-exotisme comme régime artistique peut s'avancer en tenant compte de ce que la méfiance à l'égard de l'attitude moderniste tente à oblitérer, à savoir la détermination du post-exotisme par la défaite. Si le régime artistique du post-exotisme se distingue de la détermination romantique de l'idée de littérature, c'est en effet, selon mon hypothèse, suivant toute une tradition littéraire au XXe siècle marquée par l'échec de la Révolution, tradition résolument anti-totalitaire que le nom de post-exotisme peut nommer rétrospectivement, et donc par contre-pied à la désignation du système post-exotique comme totalitaire. Voilà, je vous remercie.
Donc, le déjeuner est prévu à 12h30. Je propose que nous finissions vers 12h15, que nous réservions une bonne heure à Pierre Ouellet. Donc, on peut prendre environ, comme l'entrée a été copieuse, on peut prendre une quinzaine de minutes de discussion, une dizaine de minutes de pause, ce qui nous ferait...
La pause doit avoir lieu côté nord. Le nord, c'est là où il y a de la mousse sur les arbres, donc là où il y a l'étang.
Voilà. Donc, moi, ma montre. Bon, enfin, prenons une quinzaine de minutes de discussion. Hein, voilà. Jean-Pierre Vidal.
Je voudrais poser une question.
Vous donnez toujours vos noms.
Ah, alors, Jean-Pierre Vidal, je voudrais poser une question qui a un rapport évidemment avec ma situation particulière. J'ai entendu parler du nouveau roman. Je suis moi-même venu à la littérature par le nouveau roman, et de façon très étonnante, parce que je faisais des études de lettres sans conviction, comme bien des gens, ne sachant pas trop quoi faire d'autre, et je me souviens que c'était au lycée, hein, c'était dès le lycée, je suis tombé sur La jalousie de Robe Grillet, et tous les gens m'ont dit « mais pourquoi tu dis ça, c'est illisible ?» Et au contraire, l'impression que j'ai eue, et je l'ai dite, c'est « Ah, si c'est ça la littérature, ça m'intéresse. » Et de Robe Grillet, pour des raisons que je me suis expliquées très mal, j'ai remonté la littérature. Hein. C'est-à-dire que j'ai fini par écrire, maintenant il y a à peu près 10 ans, un article sur Corneille. Imaginez, c'est incroyable. Mais ça m'a donné quand même cette impression que la littérature, c'est une sorte de tourbillon. Et que tout véritable écrivain, et il faut déterminer en quoi c'est un véritable écrivain, surtout à l'époque actuelle, hein, tout véritable écrivain est quelqu'un qui remet en cause toute la littérature qui l'a précédée, comme s'il introduisait quelque chose qui déplace un équilibre instable et qui fait voir donc tout le reste, autrement. Cela dit, bon, ça c'était mon préambule, je crois que ce qui... Il y a quelque chose qui m'inquiète un peu dans ce que vous avez dit, c'est que quand vous signalez que c'est nouveau de voir qu'actuellement la critique universitaire s'intéresse à la contemporanéité, c'est ce que j'ai entendu en tout cas dans votre discours, mais je crois que c'est ce qui a marqué aussi au contraire le nouveau roman. Hein. Le nouveau roman est une littérature qui a été dévaluée d'ailleurs par la critique journalistique pour cette raison même. C'était la littérature écrite pour les universitaires. Et curieusement, en même temps qu'il y avait cette attitude de la critique officielle, disons, sur le nouveau roman, dévaluant cette littérature parce que c'était pour les universitaires, il y avait aussi, à la même époque, une tendance qu'on appellerait « people » maintenant, qui consistait à médiatiser le nouveau roman de façon étonnante. Par exemple, il y a eu un numéro de « Elle » dans les années 60, qui présentait la mode nouveau roman. Paco Rabanne, des choses comme ça. Quelle raison, on n'en sait rien. Mais je veux dire, ce phénomène que vous signalez comme étant effectivement une caractéristique, je crois, de l'œuvre de Bonadine, c'est-à-dire cette prise en sympathie par les universitaires et en même temps un rapport avec, disons, la critique officielle, ça s'est déjà produit au moment du nouveau roman. Moi, je l'ai vécu comme ça.
D'une part, lorsque j'emploie le terme génération, d'ailleurs que je n'aime pas, mais que j'aurais pas dû, et Bruno répondra à cela, j'aime pratiquer le contemporanéisme sur des périodes plus longues. Donc, quand je parle de cette génération, c'est aussi cette génération en disant que des années 70 à nos jours, mais. Bon, je ne voudrais pas dire de bêtises, je suis sûr que Bruno sait la réponse exacte à cette question que je vais poser. Je ne suis pas sûr que le nouveau roman ait été enseigné à l'époque où il y avait les colloques de Cerisy à l'université.
L'université américaine.
Dans les universités américaines.
C'est surtout.
Oui. Ben voilà.
Mais pas l'université française.
Oui, mais bon, alors on va peut-être pas ergoter parce que c'est pas la question vous le dîner qui est en jeu. Il me semble simplement que notre, si on veut parler de notre contemporain à tout ce que nous sommes ici, c'est-à-dire des gens qui vont d'un tout début de carrière à d'autres qui sont plutôt, donc on partage déjà pas les mêmes expériences, mais nous sommes contemporains au moins dans cette salle. Notre contemporanéité, c'est qu'il y ait une simultanéité d'une certaine production et de son analyse dans les processus académiques. Voilà. Elle peut débuter avec le nouveau roman. Voilà. Et comme il se trouve que cet élément n'est pas totalement absent de la fiction de Bolodine, voilà, c'est ce que je voulais dire.
Parce que c'est quand même étonnant, moi ça m'a beaucoup frappé, j'étais jeune à l'époque, que quand le prix Nobel a été donné à Claude Simon, la critique française a été unanime pour dire, et alors que pourtant la critique de l'époque était très cocorico.
Bon, le Pléiade pour ça est unanime. Formidable parce qu'il reprend tous les articles.
Pour dire que c'est invraisemblable de faire ça.
Bruno Cuquier.
Bruno Blanchman. Pour rebondir sur cette question, je crois qu'effectivement, à l'époque du nouveau roman, il y avait certaines sympathies universitaires qui ont porté ce mouvement, mais ça restait ponctuel et c'était des questions de personnes. Il y avait une crispation, pour ne pas dire une réaction, de l'université en tant que corps institutionnel par rapport à tout ce qui était de la littérature vivante. Un bon auteur, c'était un auteur mort, et une œuvre, c'était une œuvre qu'on ne pouvait étudier en termes universitaires au terme de 5 ans, 60 ans, lorsque le temps avait commencé à faire son travail de sélection. Ce qui se passe aujourd'hui est différent, c'est que il me semble que depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, l'université française porte les chercheurs jeunes qui souhaitent travailler sur de la littérature vivante. Lionel en est un exemple. J'en étais un aussi, c'est-à-dire que nous devons ce qui est aujourd'hui nos fonctions universitaires au travail que nous avons fait sur des auteurs vivants, sur la littérature vivante. Là où, à l'époque du nouveau roman, il y avait véritablement une sorte de réaction académique, à tous les sens du terme, contre cette littérature vivante. C'était l'époque, par exemple, aussi de la querelle entre Barthes et Picard.
Ouais, bah oui,
la vieille Sorbonne, contre laquelle d'ailleurs en 1968 s'est dressée et s'est inventée ce qu'on appelle encore aujourd'hui la Sorbonne nouvelle, c'était celle qui protégeait son précaré de valeurs classiques et pour laquelle véritablement la seule littérature acceptable était une littérature du passé. Jean-Claude Lara, qui est un des plus illustres malrussiens, spécialiste de Malraux aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas pu déposer son sujet de thèse sur Malraux avant 1976, parce que Malraux avait le mauvais goût d'être encore
vivant.
Donc, c'est un phénomène véritablement, je dirais, de sociologie et d'histoire de l'institution.
Ça va au-delà de ça. Je suis d'accord avec ton rappel et je m'excuse auprès d'Antoine d'avoir engagé la discussion sur ce sujet, mais je pense que ce qui nous touche précisément, c'est aussi mettre notre condition de contemporanéiste face à une œuvre contemporaine. Et je pense que ce que ton rappel, il faut aussi voir que ça va au-delà de la sociologie et de la politique universitaire. C'est tout de même notre rapport au texte qui est engagé, à l'inachèvement, et notre rapport aussi à ce que je disais sur la canonisation. Moi, c'est la question que je me pose quand je suis arrivé, je vais pas partir d'un point de vue biographique, mais quand tu as été recruté comme professeur de littérature contemporaine, de maître de conf de littérature contemporaine, et qu'on m'a chargé de faire un premier cours sur la littérature contemporaine, je me suis senti sur des sables mouvants. Je ne savais pas quelle position adopter. J'avais mis Volodine, Bolaño et Delillo au programme. Pas des œuvres qui me... Mais tout d'un coup, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je suis en train de participer à mon corps défendant à un figement de l'œuvre et de la mettre dans les morgues académiques où, voilà, c'est une question qui me semble essentielle. Pardon.
Pierre. Oui, Jean-Pierre disait que le grand...
Votre nom?
Pierre, oui. Que la grande œuvre littéraire bouleverse l'équilibre de l'ensemble de la littérature. Je dirais aussi de l'ensemble de la critique. Je pense que l'œuvre d'Antoine, comme celle qu'on citait tantôt de Robespierre ou de Claude Simon, ont contribué à changer radicalement le discours universitaire sur la littérature. On évoquait à l'instant la querelle de Bart-Picard. Et moi, je peux vous dire qu'au Québec, à l'Université Laval, je pense que Jean-Pierre, tu y étais déjà, dès les années 67-68, sont passés, soit comme conférenciers ou profs invités, tous les auteurs du nouveau roman. De Robespierre à Jean Ricardou, en passant par Claude Lier, Nathalie Sarraute et Jean Thibaudeau aussi. Donc on les a fréquentés dès ces années-là. J'ai pu, moi, dans la foulée de la venue de ces auteurs, écrire le premier mémoire sur Philippe Solers, hein, qui avait publié 3 ou 4 romans seulement à cette date. Donc c'était une critique dans son ensemble qui était remise en cause par cette littérature. La venue peut-être de d'autres formes de paroles à propos de la chose littéraire, inspirées de la sémiotique, des théories d'énonciation, de la nouvelle rhétorique, etc. De tout ce qui fait structuraliste ou même post-structuraliste après. Et je crois que l'œuvre d'Antoine, et tu l'as bien marqué, Yannel, en parlant de ce travail sur les conditions hein, de lecture et d'appropriation de la littérature d'aujourd'hui, l'œuvre d'Antoine a à nouveau bouleversé le discours critique qui s'est un peu figé dans cette mouvance structuraliste ou post-structuraliste. Sauf que tous les outils hein, qui étaient à notre disposition, depuis la narratologie jusqu'à la poétique, pour aborder la littérature, se sont trouvés un peu bousculés. Et donc, chaque fois, c'est l'apport d'une œuvre au changement dans le discours critique qui détermine des changements de paradigme, hein, pour parler comme Thomas Kuhn. Alors, il ne s'agit pas uniquement de l'apport de la critique à l'œuvre, qui a effectivement des effets de canonisation et de consécration, comme tu l'as bien montré, mais aussi du rapport inverse de l'œuvre sur la critique. Oui. L'œuvre désacralise, ou du moins nos propres discours hein, savants, qui se posent plein de questions, y compris des questions sur leur légitimité. Utilisant le plan, je me pose moi-même la question de la raison d'être du discours qu'on mène, parce que d'une certaine manière, il est ce discours un peu annulé par l'œuvre elle-même, hein, qui l'absorbe. Donc il y a plein de phénomènes de ce genre qui viennent vraiment de la chose littéraire, je n'ose pas l'appeler littérature, puisque c'est pas tout à fait l'entrée de la littérature, ce qui se fait du côté du post-exotisme. En fait, de ce phénomène-là, plein de choses émergent qui remettent en question le discours qu'on tient, y compris même la nature d'un colloque comme celui-ci. J'ai eu l'occasion d'inviter Antoine à plusieurs reprises, et à chaque fois, ça m'a obligé à changer un peu le mode de l'organisation de ces rencontres et à inviter des artistes, des écrivains à intégrer dans le colloque lui-même des lectures, des performances, etc., d'autres types d'interventions que ceux auxquels on a l'habitude, c'est-à-dire les commentaires, les interprétations, les analyses, la théorisation. Et c'est le d'Antoine qui m'a un peu poussé à changer un peu le mode d'organisation de ces rencontres. Donc, c'est vraiment un aller-retour. Il y a effectivement l'effet de consécration et de canonisation, mais aussi un effet de je n'ose pas dire déconstruction parce que le mot est trop vieux,
mais oui, c'est des, ça, oui.
Des articulations de nos propres discours.
Philippe Poussin. Oui, moi je pense que, puisqu'il y a des questions de Lévi-Strauss, je crois qu'il faut faire attention au problème incestueux, c'est-à-dire que je pense que les écrivains n'écrivent pas pour les universitaires. Et donc, il faut faire attention au biais dans lequel on se trouve actuellement, c'est-à-dire qu'effectivement, on est passé d'une situation où les bons auteurs étaient les auteurs morts, bon, au fait que les bons auteurs sont des auteurs contemporains. Bon, ce qui est une situation risquée, je pense, pour les auteurs contemporains, puisqu'on a un appareil, une glose qui se monte. Et moi, ce qui m'intéresserait, au fond, c'est ce que vous avez dit à propos de l'histoire de la réception, c'est pas tellement la réception universitaire qui m'intéresserait, mais c'est plutôt la réception de l'œuvre par ce public. Hein. C'est-à-dire dont on ne fait qu'on ne représente qu'une toute petite partie. Et donc on a tendance, effectivement, parce qu'on est très bavard, qu'on peut imposer une sorte de discours. Bon, les lecteurs, sauf quand il s'agit du prix Inter, au fond, ne leur donnent pas tellement leur avis. C'est ça qui, moi, me paraît beaucoup plus intéressant. Enfin, pour pouvoir mesurer la place que prend une œuvre contemporaine dans le temps qui est le sien. C'est-à-dire que, par exemple, une grande différence, à mon avis, avec le nouveau roman, sauf erreur, c'est qu'il n'y a pas eu le phénomène d'attente avec ce régime de vente très faible pendant longtemps chez nous, enfin pour des gens comme Beckett qui ont brillé au début. Il y a une différence me semble-t-il, par rapport au public non universitaire.
Oui, je souscris à tout ce que vous venez de dire, mais nous sommes qu'une petite partie un peu égocentrique et bavarde. Mais la question, c'est quand même de savoir quels outils on met en place pour analyser une réception dans l'espace public. C'est pas évident. Et même, je dois vous dire, en termes, pour l'avoir vu du côté éditorial aussi, par exemple, en discutant avec notre éditeur sur quel public touché par Bassman, c'est assez difficile de comprendre qui est un public et comment on lui parle, par exemple, parce qu'un éditeur, il doit parler en public, et donc c'est assez difficile.
Oui, moi, j'ajouterais, Philippe, tu as tout à fait raison. Cela dit, on parle de notre position de lecteur, oui, qui sommes plus ou moins des universitaires, et je dirais, comme Lionel, que c'est extrêmement difficile de savoir ce que sont les autres lecteurs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas non plus nos étudiants, c'est-à-dire ceux à qui on a tordu le bras pour les obliger à lire du Volodine, ça leur a plu ou non. Alors ceux-là, on peut savoir un peu comment ils ont réagi, mais le lecteur de librairie qui n'est pas nous, va savoir. Bon, on a les chiffres de vente, mais ça me paraît assez difficile de savoir ce que sont les autres lecteurs. Je pense qu'on ne peut pas se substituer à eux pour le coup.
Non, bien sûr.
Autre question
ou commentaire.
On va peut-être faire une petite pause de 10 minutes, pas plus, voilà. Là-bas, au nord.